Cyril Javary est sinologue et conférencier. Son dernier ouvrage, Les Trois Sagesses Chinoises, Taoïsme, Confucianisme et Bouddhisme, aux éditions Albin Michel, sont parus au printemps 2010. Cyril Javary nous propose dans cet entretien une approche passionnante de l'univers spirituel de la Chine. On écoute Cyril Javary. Cyril Javary, bonjour.
Bonjour.
Alors, quels sont les lieux les plus visités en Chine, hormis la Cité Interdite et la Grande Muraille ?
Oh, bah quand on va se promener en Chine, on voit des temples toute la journée. Et donc, on se dit que les Chinois, finalement, sont à peu près comme nous, qu'ils ont des religions, des dieux, des moines. Ils n'ont pas de prêtres, pourtant, c'est bizarre.
Alors justement, pourquoi ils vont dans un temple, les Chinois ?
Eh bien, je me suis aperçu un jour au temple des lamas, où il faisait froid, j'étais resté avec le guide chinois, je laissais les gens visiter tout seul. Et moi, je vois arriver plein d'étudiants, tout jeunes, tout modernes, le portable dans la poche et tout. Et je dis au guide chinois, mais c'est bizarre quand même tous ces jeunes qui viennent mettre des bâtonnets d'encens au temple des lamas. Il me répond désabusé, ben non, voyons, c'est normal, ils ont leur partiel dans 15 jours. Donc, les Chinois ne viennent pas dans les temples pour honorer quelque divinité que ce soit, comme nous pourrions penser qu'ils le font, puisque c'est comme ça que nous le faisons. Non, ils viennent pour négocier. Ils viennent pour négocier une aide momentanée auprès de quelqu'un qui pourrait le faire. Donc, on fait ça. Alors, il y a des bâtonnets d'encens spécialisés, des bâtonnets d'encens pour ramener la bonne santé, des bâtonnets d'encens pour avoir ses examens, des bâtonnets d'encens pour avoir la paix dans la famille, des bâtonnets d'encens pour devenir riche. C'est écrit dessus. Non, absolument. Et donc, ils vont demander leur aide. Et c'est comme ça que le plus grand pèlerinage que j'ai jamais vu en Chine, c'est à Huayang, dans le Henan. Quand j'ai organisé un voyage là-bas, je suis allé voir la maison de la Chine avec qui je travaille depuis longtemps. Et je leur ai dit, voilà, j'ai 20 personnes, je voudrais les emmener à Huayang, dans le Henan. On me dit, qu'est-ce que tu vas les faire à Huayang, dans le Henan ? Il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas de gare, il n'y a pas d'hôtel. Je dis, oui, d'accord. Mais tous les ans, il y a 800 000 personnes qui vont prier sur la tombe de quelqu'un qui n'a jamais existé pour lui demander de leur donner ce que le gouvernement ne peut plus leur offrir. Et ça, je voudrais voir ça. Et c'est assez extraordinaire.
C'est qui le personnage qui n'a pas existé ?
Fuxi. Fuxi, l'Adam chinois. L'inventeur honoris causa des trigrammes du Yiqing. L'inventeur des quatre piliers de la pensée chinoise, les rites, l'agriculture, la cuisine et le Yiqing. Eh bien, parce que vous savez qu'en Chine, le fait de n'avoir jamais existé ne vous empêche pas d'avoir un lieu de naissance, un tombeau, une histoire, etc. Et le pèlerinage sur le tombeau de Fuxi est le plus vieux pèlerinage de Chine. Il a été instauré en 780 avant Jésus-Christ. Et c'est aussi le plus long pèlerinage de Chine. Il dure pendant une lunaison entière, en février tous les ans. Il n'a été interrompu que pendant 10 ans. Devinez lesquels.
Devinette. Est-ce que la langue est la clé de voûte de la pensée d'un peuple ? Parce que vous passez beaucoup de temps à analyser la structure des caractères. Alors on a l'impression que c'est la clé pour comprendre la pensée chinoise.
Mais c'est la clé pour comprendre toutes les pensées nationales. Les mots sont les outils avec lesquels on pense. Et c'est pour ça que plus on connaît de langue, moins on a de chance d'être bête, disait mon vénérable professeur Kirill Rijik, qui lui lisait et écrivait une dizaine de langues. Et pas les plus simples, le russe, l'hébreu, le chinois, le finlandais, etc. Et que donc, pour rentrer dans la structure de pensée d'une culture différente, il faut rentrer dans sa langue. Bon, l'ennui, c'est que le chinois n'est pas une langue, c'est une écriture. Donc, pour rentrer dans la structure de pensée chinoise, il faut rentrer dans l'idéographie. Et des gens qui ont parfaitement compris ça, ce sont les missionnaires bouddhistes. Le mal qu'ils ont eu pour transcrire en idéogramme les idées du bouddhisme. Parce que on ne s'en rend pas compte. Nous, on peut incorporer des idées chinoises sans aucune difficulté. Yin-yang, par exemple. Il suffit d'écrire Y-I-N, Y-A-N-G, et l'affaire est faite. Oui, mais à l'inverse, ça ne marche pas comme ça. Une idée, un concept, un mot, un nom, pour rentrer en Chine, il doit se vêtir d'habits chinois. C'est-à-dire s'écrire en idéogramme. Et donc, quand les missionnaires bouddhistes ont commencé à arriver en Chine à partir de la fin du 1er siècle de notre ère, Ils ont eu un mal de chien pour traduire les concepts excessivement abstraits du bouddhisme en idéogrammes. Bon, il faut dire qu'il y a eu au début une difficulté. Quand ils commençaient à raconter leurs histoires, les Chinois les écoutaient et puis disaient « Mais on connaît bien ce que vous voulez dire, là, le vide, la vacuité, on sait très bien. Là, notre patron, Lao Tzu, il nous en a parlé déjà depuis 500-600 ans. » Et justement, notre patron, vous savez, il est parti vers l'ouest. Après avoir franchi la passe et dicté le Lao Tzu au gardien, vous savez. On ne sait pas où il est allé. Ben maintenant, on sait. Il est allé chez vous, il est allé enseigner votre patron. Et donc, finalement, ce que vous nous racontez, ben, c'est juste la version chapati de ce que disait notre patron. Et c'est comme ça que le bouddhisme a été d'abord traduit en chinois avec les termes du taoïsme. Le nirvana, on appelait ça wu wei. Quand même, faut le faire. Les sutras, on appelait ça jing, comme le Tao de Jing. Bon, ça a duré, et puis quand même, il y a eu des moines, des fervents bouddhistes chinois qui, au bout de 200-300 ans, disent non, faut réfléchir un peu plus. Et à ce moment-là, ils ont inventé des termes spécifiques au bouddhisme. Et comme le bouddhisme est par nature prosélyte, puisque le bouddhisme du grand véhicule qui était en Chine, c'est des gens sympathiques, ils estiment que ça vaut pas le coup d'être sauvé, d'arrêter de souffrir, s'il y en a encore qui souffrent. Donc il faut que tout le monde soit sauvé. C'est pour ça qu'on l'appelle grand véhicule, c'est un autocar. Le petit véhicule, c'est un monoplace, chacun a son salut et tout. Donc il faut convertir le maximum de gens. Nous on dit convertir, mais les bouddhistes disent sauver de la souffrance le maximum de gens. Résultat, il faut que les idées bouddhistes se développent. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que l'imprimerie. Le premier livre imprimé du monde, en 850, attention, c'est le Sutra du Lotus de Diamant. Et c'est grâce à cette volonté d'expansion du bouddhisme qui venait à l'encontre de la vénération de la calligraphie au pinceau, qui est un des fondements de la Chine, que s'est développée l'imprimerie en Chine, quelque temps avant un certain Allemand à Mayence.
Alors on a parlé du bouddhisme et de ses rapports avec le taoïsme, mais qu'est-ce que veut dire le mot Tao et qu'est-ce que ça signifie ?
Rien.
Le vide.
Non. Ah non, le vide, ça a été très compliqué. Il y a plein d'idéogrammes pour dire le vide. Le plus courant, il faut au moins 18 coups de pinceau pour l'écrire. Ça, c'est l'humour chinois.
Donc on va s'en tenir au Tao.
Le Tao, je dis que ça veut rien dire, c'est un mot banal. Excessivement banal. Ça veut dire le comment que ça marche. Mais le fonctionnement des choses. C'est Jean-François Bitter, ce merveilleux sinologue suisse, qui nous en a donné la véritable traduction. C'est le fonctionnement des choses. Et il y a une question qu'on me pose souvent et qui m'énerve particulièrement. C'est quand les gens disent Tao, en français, il faut l'écrire avec un T majuscule ou avec un D majuscule. Ça m'énerve quelquefois au point de gifler. Je dis, vous l'écrivez comme vous voulez, mais surtout pas avec une majuscule. Parce que précisément, s'il est taoïste, pour expliquer ce fonctionnement naturel des choses, pour ils nous ont prévenus. Ce qu'on nomme le Tao, c'est pas le Tao, parce que par définition, il ne peut pas être nommé. Donc Tao, c'est le pseudonyme de ce qui fait que le printemps suit toujours l'hiver l'été suit toujours le printemps. Pour ça, il fallait un mot. Ils ont choisi le plus banal qui soit. Fonctionnement des choses. Et si vous utilisez cette traduction, à ce moment-là, vous voyez tout de suite à la fois la profondeur et l'humour taoïste. Je prends la grande phrase de la plus classique sur le yin-yang qui se trouve dans le yi-qing d'ailleurs. Yin yang zhe wei ta. On la traduisait avant, un yin, un yang, c'est le Tao. Et chacun ajoutait dans le fond de son cœur, tellement c'était pompeux, mais bien cher frère. Eh bien, grâce à Jean-François Bitter, maintenant on sait très bien ce que ça veut dire. Et on y retrouve tout l'humour taoïste. Un coup yin, un coup yang, c'est comme ça que tout fonctionne.
Effectivement. Alors, vous allez chercher les racines du taoïsme du côté du chamanisme. Ça m'a beaucoup étonné, j'y avais pas pensé.
Bon, enfin, voyons. De toutes les civilisations qui sont nées sur le continent eurasien, la chinoise a une particularité qui la différencie de toutes les autres. Toutes les autres sont nées de migrations, de conquêtes. Ça commence avec les Aryens qui descendent du plateau iranien vers moins 5000 et qui commencent à conquérir petit à petit la péninsule indienne. Une affaire qui n'est toujours pas réglée, si vous remarquez, avec les Tamouls tout en bas, hein. Ne parlons pas des migrations celtes qui ont peuplé l'Europe, ne parlons pas du peuple hébreu dont l'histoire commence bien par un voyage. Dieu dit à Abraham, fais tes valises, et va-t'en, quitte Ur en Chaldée. Ne parlons pas de la dernière civilisation née sur ce continent, la civilisation nord-américaine, qui naît du voyage du Mayflower, et qui est toujours à la recherche de sa nouvelle frontière. Et quand ils ont buté sur le Pacifique en Californie, ils ont allé la chercher dans le ciel. Et quand ils ont atteint la Lune, ils sont allés la chercher ailleurs, entre le Tigre et l'Euphrate, on sait ce que ça a donné. À la différence de ça, les Chinois habitent depuis toujours dans le pays où ils habitent maintenant. Ce sont des agriculteurs sédentaires. Eh bien, quand vous cultivez le même lopin de terre pendant 10 000 ans, ça crée des liens. Parce qu'on cultive les céréales en Chine depuis que les céréales font partie du patrimoine de l'humanité. Et en particulier, ça donne cette perception de l'invisible que les paysans sont seuls à avoir. Quand un paysan prend une motte de terre, les miettes entre ses doigts et dit « Ah, ça c'est de la terre à maïs », il n'a pas fait l'INRA, mais il sait, parce qu'il sent. Et quand vous faites ça pendant 10 000 ans, ça donne une évidence de l'invisible qui fait que tout naturellement le vieux chamanisme néolithique n'a jamais été contrecarré en Chine par de quelconque dieu masculin céleste et monothéiste, et que donc il a toujours droit de citer, et qu'il a pris entre autres formes la forme du taoïsme populaire. Mais si vous remarquez les deux versants de l'âme chinoise, le versant solaire, public, le versant confucéen, le versant lunaire, secret, le versant taoïste, eh bien, le versant confucéen solaire, il a émigré en Corée, au Japon, au Vietnam. Mais le versant taoïste, non, il n'y a pas de taoïsme coréen, il n'y a pas de taoïsme japonais. Et pourquoi? Parce que le taoïsme est la forme qu'a pris en Chine ce vieux chamanisme. Au Japon, il a pris une autre forme, le shintoïsme, le Tao des esprits, qui est la forme qu'a pris ce vieux chamanisme néolithique dans l'île japonaise. En Corée, c'est pareil. En Corée, vous ouvrez les pages jaunes, si l'on peut dire, du dictionnaire de la ville de Corée, et vous avez le numéro de téléphone des 8000 chamanesses officiellement enregistré dans la ville de Séoul. Et vous vous souvenez des Jeux Olympiques à Séoul? Il y a eu deux cérémonies d'ouverture. Une à 15h avec tout le tralala, poète, bon. Mais il y en a été précédé le matin même, d'une autre, à 7h du matin, quand les journalistes occidentaux dorment, dans laquelle le maire de Séoul, accompagné de la reine des chamanesses, a purifié le stade où devait avoir lieu l'ouverture, pour en chasser les mauvais esprits. Comme ça, après, à 15h, on pouvait faire le tralala médiatique.
C'est vrai que c'est un autre monde. Dans votre livre, vous posez une question, Voltaire était-il confucéen? Alors, c'est quoi la réponse?
Voltaire était quelqu'un pour qui la liberté et la justice comptaient par-dessus tout. Il s'est dépensé énormément pour lutter contre les injustices de l'absolutisme royal. Quiconque estime que la justice et la dignité humaine sont des valeurs fondamentales est confucéen. Parce que Confucius ne dit finalement pas grand-chose d'autre. Il s'y rajoutait un détail, à savoir que quand, par le biais des récits qu'en faisaient les jésuites, Voltaire prenait connaissance du système des examens, qui permettait à n'importe quel Chinois d'accéder au plus haut poste de l'État. On a vu des fils de paysans devenir premier ministre avec ce système. Eh bien, ça lui plaisait beaucoup, parce que c'était une arme absolue contre le pouvoir absolu, contre l'absolutisme royal, qui est une forme de tyrannie que Louis XIV et ses arrière-petits-fils ont imposée à la France pendant 2 siècles, et dont, heureusement, la Révolution nous a débarrassés. Et on peut se souvenir de ce que disait le poète « Dors-tu content, Voltaire? Et ton hideux sourire vole-t-il tige encore sur tes eaux décharnées? Ton siècle était trop jeune pour te lire, disait-on, le nôtre doit te plaire et tes hommes sont nés. Il est tombé sur nous, ce vaste édifice que tu sapais avec tes larges mains.
Donc Voltaire confucéen, en conclusion. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que ces trois sagesses chinoises que vous évoquez donc dans cet ouvrage, le taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme, ont eu un impact sur l'Occident ?
Aucun. Malheureusement, pour celle que je préfère, dont vous avez pu deviner de laquelle elle est. Par contre, leur image a eu énormément d'impact. Taoïste est un adjectif qui fait vendre, ici. Essayez de vous installer, d'ouvrir une boutique et de dire « Ici, massage confucéen ». Vous n'irez pas loin. Par contre, vous écrivez « Ici, gymnastique taoïste », vous faites le plein en une semaine. Et que donc, au niveau des fantasmes, le taoïsme plaît beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est tellement fumeux qu'on peut y mettre ce qu'on veut. En revanche, le bouddhisme, le confucianisme plus exactement, c'est tellement simple que c'est vachement dur à mettre en pratique. Parce que les bases du confucianisme, par exemple, ne jamais juger les autres. C'est utile, hein, quand même. Je vais vous donner une phrase de Confucius que j'aime beaucoup. Si tu vois quelqu'un qui se conduit bien, imite-le. Si tu vois quelqu'un qui se conduit mal, tenez. Françoise Objoie, terminez la phrase. Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Ne pas l'imiter, surtout. Le fuir.
Le fuir. D'autres possibilités ?
On ne peut pas le supprimer, ça ne se fait pas.
Ah bah si, c'est ce que font les intégristes. Tue-le ! Ouais. Vous avez la réponse chrétienne, pardonne-lui. Vous avez la réponse républicaine, apprends-lui. Etc, etc. Et toutes ces réponses, ce n'est pas celle de Confucius. Parce que toutes partent d'un seul point de vue. Je juge l'autre, et je juge qu'il est mal, et que je suis bien. Et ça, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'a dit Confucius ? Je vous reprends la phrase entière. Si tu vois quelqu'un qui se conduit bien, imite-le. Si tu vois quelqu'un qui se conduit mal, cherche en toi en quoi tu l'imites.